Bienvenue dans le débrief, votre rendez-vous info de fin de journée à l'antenne de CILS FM 107,9, la radio communautaire francophone du Grand Victoria. Nous avons un tout petit 5 degrés au mercure à 16h et des poussières au centre-ville de Victoria en ce 1er décembre. 60% de probabilité d'averse pour les prochaines heures. En interview aujourd'hui dans l'émission, je retrouve mon collègue Adrien Blanc, animateur de l'émission Rendez-vous sur les ondes de CILS FM. Adrien vient commenter vers 16h40 la décision du président français François Hollande de ne pas solliciter un second mandat. Mais auparavant, sans plus tarder, on fait le tour des actualités mondiales et nationales. Les bulletins de Denis Lépine débutent dans un instant et nous aurons ensuite le radiojournal des Nations Unies, les nouvelles provinciales et bien d'autres infos, sans oublier la météo détaillée. C'est parti, bonne émission à tous. La production du débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducum national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. La présidente de la Commission canadienne des droits de la personne s'est exprimée sur la publication du sondage 2016 concernant des cas d'abus sexuels dans les forces armées canadiennes. Marie-Claude Landry a déclaré être troublée par les résultats du document. Elle a mentionné que ces chiffres choquent d'autant plus que plusieurs ne sont pas surpris d'apprendre la teneur du sondage. Marie-Claude Landry a poursuivi en disant qu'en dépit des efforts, elle doit encore insister sur des mesures correctives plus sévères afin de mettre un terme à cette culture misogyne et sexiste de harcèlement, a-t-elle souligné. Politique américaine, le président élu Donald Trump a confirmé sur son compte Twitter qu'il donnera les détails sur la manière dont il compte cesser de gérer ses entreprises le 15 décembre prochain. Il s'agit pour l'homme d'affaires d'éviter tout conflit d'intérêts. Il a précisé qu'il s'exprimera à New York lors d'une conférence de presse majeure. Ses enfants seront également présents. Conclusion de la première ronde d'assemblée publique de l'Association nationale des retraités fédéraux et de l'Association médicale canadienne. Selon la MC, eh bien, ces rencontres tenues à l'échelle du pays visent à mettre l'emphase sur le besoin de se pencher sur les soins aux aînés. Des membres de retraités fédéraux se sont rassemblés dans plusieurs collectivités, dont Charlottetown, Edmonton et Kelowna. Jean-Guy Soulière, président de retraités fédéraux, a dit notamment que le Canada a besoin d'un continuum intégré de soins. Le docteur Granger Avery, président de l'AMC, a dit pour sa part que le silence total de la part des dirigeants politiques est franchement inacceptable. Le comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires de la Chambre des communes formulera d'ici la fin du mois des recommandations au gouvernement quant à l'avenir de Poste Canada. Le gouvernement annoncera ses plans pour l'avenir de la société d'État au milieu de l'an prochain. Le comité a consulté au cours de l'automne la population canadienne d'un océan à l'autre sur le sujet. Selon des données publiées par la Société canadienne d'hypothèques et de logements, la proportion d'appartements en copropriété détenus par des étrangers reste faible dans les grandes régions métropolitaines du Canada. Les chiffres soulignent que les proportions les plus élevées d'appartements en copropriété achetés par des gens de l'extérieur ont été enregistrées à Vancouver et à Toronto, respectivement 2,2 et 2,3. La société rappelle cependant que les données font état de pourcentage à la baisse comparativement à 2015. Dossier de la consultation pan-canadienne maintenant portant sur le cadre de sécurité nationale. Les commentaires de la population seront acceptés jusqu'en fin de journée. Rappelons que Sécurité publique et Protection civile Canada a publié un document de discussion pour encourager les débats et favoriser les commentaires. La consultation porte entre autres sur les mesures de lutte contre le terrorisme et les enquêtes. Le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, John McCollum, et son collègue à l'innovation, aux sciences et au développement économique, Navdeep Bains, ont annoncé que les entreprises canadiennes pourront bientôt faire venir plus rapidement des experts hautement qualifiés au Canada. Ils ont pris la parole lors d'un événement tenu dans le sud ontarien. Ils ont parlé de la stratégie en matière de compétences mondiales. La stratégie vise notamment à lever l'exigence de permis de travail pour les mandats de travail de très courte durée, par exemple 30 jours ou moins, dans des domaines à faible risque. 11e édition du rapport « Payer les taxes » publié par PricewaterhouseCoopers. On apprend que le Canada arrive en deuxième place des pays du G7 concernant les paiements fiscaux des PME. En moyenne, bien les PME canadiennes font 8 paiements de taxes et d'impôts par année. La moyenne mondiale est de 25. Peter Van Dyke, leader de la politique fiscale canadienne, a déclaré dans un communiqué que le système fiscal canadien est l'un des plus efficaces au monde lorsqu'il s'agit d'appuyer les PME. Au sport au hockey, Ligue nationale, victoire de Calgary 3-0 contre Toronto et les Islanders de New York ont surpris les Penguins de Pittsburgh 5-3. Ce soir, Philadelphie sera à Ottawa, Edmonton à Winnipeg et Vancouver recevra Anaheim. Dans la NBA, victoire de Toronto 120-105 contre Memphis. Au baseball, bien le baseball majeur a annoncé s'être entendu avec l'association des joueurs sur une nouvelle entente de 5 ans. Et dans la NFL, ce soir, Dallas sera au Minnesota. Les Cowboys tenteront de remporter un 11e match de suite.
C'était les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Bienvenue dans Le Débrief, votre rendez-vous info de fin de journée à l'antenne de CILS FM 107,9. On se tourne vers la météo à présent. Sur la carte radar, on a de la pluie à quelques endroits du sud de l'île de Vancouver. Il y a de la pluie présentement du côté de Sook, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Victoria. Un petit peu au nord, sur la péninsule, on a un peu de pluie actuellement à Sydney. Pour les prochaines heures, la probabilité de pluie est assez élevée. Environnement Canada parle de pluie intermittente au cours des prochaines heures avec un maximum de 6 degrés. Pour la journée de demain, vendredi 2 décembre, maximum de 9 degrés avec de la pluie. Ça se dégage quelque peu en fin de journée, mais la probabilité d'averse restera tout de même à 60%. Pour le week-end, c'est encore 9 degrés au mercure dans la journée de samedi, maximum de 9 degrés. Dimanche, un petit dégagement, maximum de 8. Ce sera une alternance de soleil et de nuages. Donc ça s'est amélioré dans le pronostic d'environnement Canada pour la journée du 4 décembre. C'est maintenant soleil et nuages alors que c'était pluie selon les prévisions des derniers jours. Alors ça s'est amélioré de ce côté-là. Et pour lundi 5 décembre, même chose, maximum de 6 avec une alternance de soleil et de nuages. On va passer aux nouvelles internationales que nous fournissent tous les jours les Nations Unies. On va écouter le radio-journal de l'ONU. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour les nouvelles provinciales. À tout de suite.
Bonjour à toutes et à tous. Isabelle Dupuis pour ce journal de la radio des Nations Unies, avec en titre la Syrie, où plus de 26 000 civils ont à présent fui à la peste. L'ONU qui examine comment prévenir l'exploitation des TIC par les terroristes, la nouvelle stratégie du PAM pour acheminer des vivres dans le nord-est du Nigeria. Il sera aussi question du problème de la faim cachée dans le monde et pour finir, un dossier consacré à la Journée mondiale contre le sida. L'actualité, c'est d'abord la situation à Alep-Est, en Syrie, toujours en proie à d'intenses combats. À ce jour, plus de 26 000 personnes ont quitté les quartiers rebelles pour rejoindre la partie ouest d'Alep ou la ville d'Al-Kamishli, actuellement contrôlée par les Kurdes. En tout, le nombre de déplacés à Alep atteint 400 000 personnes et l'ONU se mobilise sur place pour appuyer la livraison de l'aide et prévenir tout malmenage des déplacés qui traversent la ligne de front. Alors que l'ONU craint qu'Alep-Est ne devienne un gigantesque cimetière, l'envoyé spécial pour la Syrie continue de réclamer le départ volontaire du front Al-Nusra de ses quartiers, ainsi que l'instauration d'une trêve humanitaire. En la matière, Staffan de Mistura compte examiner la proposition russe d'instaurer 4 couloirs humanitaires à Alep. Alpha Diallo.
À ce stade, les Nations Unies entendent en savoir plus sur les modalités de fonctionnement des 4 couloirs humanitaires proposés par Moscou lors d'une réunion du groupe de travail sur l'aide humanitaire en Syrie ce jeudi à Genève. Des passages qui permettront d'évacuer au moins 400 blessés et d'acheminer des vivres dans la partie orientale d'Alep. Mais pour l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, ce dispositif ne fonctionnera que si tous les belligérants acceptent de sécuriser ces corridors. D'où ce nouvel appel de Staffan de Mistura aux combattants du front Al-Nusra pour qu'ils quittent Alep-Est.
Aujourd'hui, c'est encore plus urgent de rappeler à Al-Nusra que leur évacuation volontaire ailleurs pourrait énormément aider la réduction de la violence qui peut encore venir dans le reste de la ville d'Alep.
Dans tous les cas, l'ONU plaide toujours pour l'instauration d'une pause humanitaire, d'autant plus que le flux des déplacés ne faiblit pas. Plus de 26 000 personnes ont fui depuis samedi vers les zones contrôlées par les forces gouvernementales à Alep-Ouest et vers l'enclave kurde de Cheikh Maksoud. Et pour tous ces déplacés, le besoin le plus urgent reste des abris en raison du froid.
Comment prévenir l'exploitation des technologies de l'information et de la communication par les terroristes? C'est le thème d'une réunion organisée ce jeudi au siège par le Comité de lutte contre le terrorisme du Conseil de sécurité et l'ONG ICT for Peace. Ces technologies sont récemment devenues un outil pour les terroristes qui utilisent notamment les réseaux sociaux pour recruter. L'ambassadeur Daniel Stauffacher, fondateur d'ICT for Peace, explique l'objectif de cette rencontre.
Nous avons vraiment étudié l'aspect optique dans le sens de transporteurs des messages. Et qui sont les transporteurs du message? C'est les grandes compagnies, Google, Twitter, Facebook, Telegram, mais en Chine aussi, Weibo, etc., qui sont utilisés. Alors, il faut un dialogue par les États, par la société, avec cette compagnie. Parce que cette compagnie, ils n'aiment pas ça. Ils détestent ça. C'est mal pour leur business si leurs outils, les social media, sont utilisés, abusés. Et c'est pour la première fois d'avoir un dialogue avec eux et pour eux de dire quelles sont les mesures que eux prennent à leur propre compte.
Dans le nord-est du Nigeria, plus de 45 000 personnes ont pu obtenir de l'aide alimentaire grâce à une nouvelle stratégie du Programme alimentaire mondial mise sur pied pour atteindre les régions frappées par la violence de Boko Haram, des régions qui sont les plus reculées et difficiles d'accès. Le point avec Jérôme Languet.
Le mécanisme mis sur pied par le PAM avec l'aide de l'UNICEF permet d'acheminer des vivres dans les états de Borno et de Yobe aux personnes qui sont le plus dans le besoin. Les zones ciblées sont celles qui étaient jusqu'à présent inaccessibles à l'aide humanitaire et où l'accès est extrêmement limité en raison notamment de l'insécurité. L'aide est acheminée dans un premier temps par voie aérienne et ensuite en empruntant des routes. L'objectif est d'éviter à des dizaines de milliers de personnes de sombrer dans la famine. 12 missions seront déployées chaque mois et le PAM prévoit de venir ainsi en aide à 300 000 personnes, y compris à des enfants en bas âge et à des femmes enceintes ou allaitantes. Près de 4,6 millions de personnes souffrent actuellement de la faim dans le nord-est du Nigeria, dont 2 millions ont besoin d'une aide d'urgence. Et dans certaines zones, plus de 50% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë, modérée ou sévère.
Enfin, des centaines d'experts se réunissent durant 2 jours au siège de la FAO à Rome pour discuter d'un problème majeur dans le domaine de la sécurité alimentaire mondiale. La faim cachée. Selon la FAO, alors que 793 millions de personnes se couchent chaque soir le ventre creux, on estime que 2 milliards souffrent au quotidien de carences en vitamines et minéraux adéquats. Les précisions de Charlotte Dufour, spécialiste des politiques nutritionnelles au siège de la FAO.
Une des questions fondamentales que l'on va aborder aujourd'hui et demain est comment est-ce que les systèmes alimentaires peuvent mieux répondre aux besoins nutritionnels des populations. Ceci implique d'identifier diverses stratégies du niveau de la production, mais aussi de la transformation des aliments, du marketing, quels aliments sont les plus accessibles en termes de prix, mais aussi en termes de disponibilité sur les marchés par exemple, et comment s'assurer que les consommateurs ont aussi des informations pour mieux utiliser ces aliments en vue d'une bonne santé. Il y a une variété d'options possibles, les réponses doivent être adaptées à des contextes divers, et c'est pour ça qu'il est intéressant de pouvoir échanger entre États sur les possibilités, les innovations et les défis à relever ensemble.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Ce jeudi 1er décembre marque la journée mondiale de lutte contre le sida. Et à cette occasion, le secrétaire général de l'ONU s'est félicité du fait que 35 ans après son apparition, des progrès réels ont été accomplis face à la maladie. Les acquis restent cependant fragiles. Et si les progrès sont retardés, le taux de nouvelles infections parmi les adolescents pourrait augmenter de 60% d'ici à 2030. Au micro de Christina Silvero, Michel Sidibé, le directeur exécutif de l'ONU SIDA, fait le point sur la situation.
Moi, je crois qu'il faut dire qu'on a fait énormément de progrès, que la solidarité globale a démontré dans la lutte contre le sida que lorsqu'on venait ensemble, on peut gagner. On n'avait pas d'espoir, on n'avait pas de médicaments, on ne savait pas ce qu'on pouvait faire pour les plus démunis, les plus pauvres. Aujourd'hui, on a 18 millions de personnes sous traitement. On ne savait pas quoi faire pour les enfants. Les médicaments n'étaient même pas adaptés pour les traiter. Aujourd'hui, on a doublé en moins de 5 ans le nombre d'enfants sous traitement. traitement, on a pratiquement 1 million d'enfants sous traitement. On voit beaucoup de pays aujourd'hui qui nous disent qu'ils vont certainement ne plus avoir d'enfants qui vont naître avec le sida. Mais ceci étant dit, il faut reconnaître que la complaisance est notre pire ennemi. Il faut qu'on arrive vraiment à se mobiliser pour atteindre ces groupes qui n'ont pas été atteints. Je pense par exemple aux jeunes filles. Ces jeunes filles, lorsqu'on les voit passer de l'âge de 13, 14, 15 ans vers l'âge de 19 ans, c'est une période de transition où elles sont victimes, malheureusement, de violences sexuelles. Malheureusement, elles n'ont pas accès souvent au dépistage. Et lorsqu'elles ont accès au traitement, le traitement souvent est abandonné. Et je crois qu'il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut pour arrêter l'infection chez les jeunes filles. Il faut qu'on fasse aussi attention au fait que l'épidémie, elle continue. Et on voit aujourd'hui avec les traitements que les personnes vivent beaucoup plus longtemps. On a plus de 5 500 000 personnes qui ont le VIH et le risque de développer des maladies cardiovasculaires. Et on le voit aussi dans le cas du cancer du col de l'utérus.
Est-ce que les préjugés envers les personnes LGBT ou le manque de traitement pour les personnes qui sont utilisateurs de drogue reste un grand défi?
C'est le plus grand défi. Le rapport montre encore cette année qu'après 30 ans d'efforts, 45% des nouvelles infections sont chez les personnes qui s'injectent la drogue, les travailleuses du sexe ou les groupes LGBTI, parce que ces groupes-là sont marginalisés et ces groupes sont criminalisés souvent et ces groupes sont obligés de se cacher et n'ont pas accès aux services. On a constaté que moins de 2% des ressources totales qui ont été dépensées dans la lutte contre le sida, malheureusement, a été affectée à ces populations-là.
L'OMS vient de publier des nouvelles directives qui recommandent, entre autres, l'utilisation de l'autodépistage face au sida.
Moi, je suis tout à fait favorable. On a aujourd'hui plus de 40% de la population totale vivant avec le VIH qui ne connaissent pas leur statut sérologique. Donc, si on va vers l'autodépistage, mais avec, bien sûr, des services d'accompagnement qui puissent permettre aux gens d'avoir la bonne information, c'est la chose à faire. Il faut aller vers les communautés, sinon on ne gagnera pas contre la maladie. Et surtout, on sait que quand les gens ne connaissent pas leur statut sérologique, eh bien, le grand problème, c'est qu'ils continuent à infecter. Et c'est le cas aujourd'hui en Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale qui se trouve être délaissée complètement. On a une personne sur quatre qui a accès au traitement. Et en plus de cela, on sait qu'il y a plus de 1 400 000 personnes qui savent qu'ils sont infectées, mais qui ne sont pas sous traitement. Donc, il faut travailler pour faire en sorte que le dépistage devienne beaucoup plus convivial.
Et c'est avec Michel Sidi que se referme ce journal de la radio des Nations Unies, une édition à retrouver sur l'Internet. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
16h17 à l'antenne de CILS FM 107,9. C'est Alexis Gagnon en votre compagnie jusqu'à 17h dans l'émission Le Débrief. On va bientôt changer de perspective et passer aux nouvelles provinciales. Le mercure oscille entre 6 degrés et 7 degrés au centre-ville de Victoria actuellement. On a des pluies intermittentes, des averses intermittentes au cours des prochaines heures en soirée. Et tout de suite dans l'actualité provinciale, passage obligé, on parle du pipeline Trans Mountain, bien sûr, qui défraie la manchette cette semaine. Trans Mountain pourrait devenir l'enjeu majeur des élections en Colombie-Britannique. Vous le savez, des élections sont prévues pour le 9 mai 2017. Ça approche à grands pas et Trans Mountain, de l'avis de nombreux observateurs, sera au cœur des débats à 6 mois des élections provinciales en Colombie-Britannique. L'approbation du projet Trans Mountain de la compagnie Kinder Morgan donne du grain à moudre à saveur électorale, écrit Anne Diandra Louarn dans cet article paru sur le portail de Radio-Canada Colombie-Britannique. Alors que Christy Clark se montre ouverte à l'approbation du projet Kinder Morgan à condition qu'il respecte les 5 conditions de la province, John Horgan, le chef de l'opposition néo-démocrate, accuse quant à lui la première ministre Christy Clark d'avoir failli à son devoir de défendre la province. La Colombie-Britannique a donné la chance à Christy Clark de protéger notre côte et elle a préféré mettre le bien-être de riches donateurs devant celui des communautés locales, des Premières Nations et de l'environnement, a lancé John Horgan, le chef du NPD britanno-colombien. lors de sa dernière prise de parole publique au lendemain de l'approbation du projet Trans Mountain cette semaine, Christy Clark a invité Justin Trudeau à se confronter en personne aux Britanno-Colombiens pour leur expliquer les raisons de sa décision. Plus loin dans les pages de la presse canadienne, toujours à propos de Christy Clark et de sa position face à cette nouvelle tombée cette semaine du feu vert accordé à l'expansion du pipeline Trans Mountain. Donc le titre de cette dépêche de la presse canadienne, Christy Clark croit qu'Ottawa remplira les 5 conditions posées par la province de Colombie-Britannique. La première ministre de la Colombie-Britannique estime qu'Ottawa est bien prêt de remplir les 5 conditions imposées par son gouvernement pour qu'il approuve le nouveau projet d'oléoduc Trans Mountain. Christy Clark a indiqué mercredi que son gouvernement planche toujours avec Ottawa sur les mesures d'intervention en cas de déversement. Victoria souhaite par ailleurs obtenir des assurances concrètes sur la création d'emplois et les retombées économiques de ce projet pour la province. La première ministre espère que les 5 conditions posées par le gouvernement de la province pour les grands projets pétroliers seront remplies avant les élections générales de mai prochain. Ce sujet risque fort d'être un enjeu majeur lors de la campagne électorale. Donc vous le voyez, l'ensemble des médias actuellement, au lendemain de la décision du gouvernement Trudeau, s'entendent pour dire que le sujet Trans Mountain va être au cœur des débats lors de la campagne électorale provinciale. Cet article se poursuit ainsi. Le nombre de pétroliers qui mouilleront au port de Vancouver va être multiplié par 7 lorsque le nouvel oléoduc Trans Mountain entrera en service. Les maires de la région vancouveroise, les communautés des Premières Nations et les environnementalistes estiment que les risques de déversement de bitume dilué seront alors beaucoup trop élevés. Christy Clark croit que le premier ministre Trudeau devrait maintenant venir s'expliquer en Colombie-Britannique et expliquer pourquoi il considère qu'il en va de l'intérêt national d'approuver cet oléoduc Trans Mountain, un projet de 6,8 milliards de dollars. Il y a également la première ministre de l'Alberta, évidemment en faveur de ce projet d'expansion du pipeline Trans Mountain, qui sera en Colombie-Britannique au cours des prochains jours pour mousser ce projet, le justifier, le défendre. Elle sera peut-être aux côtés du premier ministre Trudeau, ça reste à voir. Et Christy Clark, pour sa part, affiche un scepticisme de plus en plus tiède et annonce à demi-mot qu'elle serait prête à accepter cette expansion du pipeline. Alors, c'est à suivre dans l'actualité provinciale des prochaines semaines, bien sûr. Quant à la compagnie Kinder Morgan elle-même, elle a annoncé cette semaine qu'elle désire commencer la construction du pipeline dès 2017, Kinder Morgan Canada espère pouvoir entreprendre l'expansion de son pipeline Trans Mountain dès 2017, alors que le projet vient de recevoir l'approbation du gouvernement fédéral. Selon Kinder Morgan, 39 ententes avec des communautés autochtones le long du tracé de ce pipeline seraient sur le point d'être conclues. C'est rapporté par la journaliste Catherine Bouchard dans le portail de Radio-Canada. Ici à Victoria, plus près de chez nous, une manifestation aura lieu tout à l'heure à partir de 17h30 pour protester contre cette approbation donnée par le gouvernement Trudeau dans le dossier Trans Mountain. Donc les manifestants se réuniront devant la bibliothèque centrale de la ville de Victoria, la GVPL, Greater Victoria Public Library. C'est à partir de 17h30 et ça se poursuit jusqu'à 19h. Donc une manifestation s'opposant à ce pipeline de Kinder Morgan. Autrement, côté santé publique, crise des opioïdes au Canada et en Colombie-Britannique, le gouvernement fédéral restreint 6 substances chimiques servant à la production du fentanyl pour s'attaquer à la crise des cas de surdose et de décès liés aux opioïdes. C'est dans la presse canadienne aujourd'hui. Santé Canada a annoncé hier mercredi, que les nouvelles réglementations entraient en vigueur immédiatement en raison de l'urgence de la situation. La ministre de la Santé, Jane Philpott, a affirmé que les restrictions sur certains des éléments entrant dans la composition de la drogue synthétique, le fameux fentanyl, tristement particulièrement célèbre, figurait parmi une série de mesures prises par le gouvernement. C'est rapporté, je le disais, par la presse canadienne en date d'aujourd'hui, 1er décembre. Et toujours en rapport avec cette crise des surdoses, le Vancouver Sun rapporte qu'un Montréalais a été arrêté pour trafic de drogue ici dans la région de Victoria. Un Montréalais de 27 ans a été arrêté par la police en Colombie-Britannique relativement à des saisies de drogue évaluées à 1,25 million de dollars. Ce Montréalais, c'est Duke Kung Pham. Il fait face à plusieurs accusations de trafic de drogue. L'Agence des services frontaliers du Canada avait d'abord intercepté à l'aéroport de Vancouver en octobre un colis contenant 1,45 kg de fentanyl, un opioïde extrêmement puissant qui peut être mortel. Le chef intérimaire de la police de Victoria, Del Manac, a indiqué en conférence de presse aujourd'hui jeudi que le colis était destiné à une résidence de Victoria. Cette drogue avait une valeur de 400 000 $ sur le marché de la revente, estime la police. L'enquête a par la suite mené les policiers vers une résidence de Saanich en banlieue de Victoria. Les policiers y ont découvert diverses drogues qui étaient préparées pour la revente. La police a ainsi saisi 6 000 doses d'un mélange de fentanyl et d'héroïne, 6,2 kg de cocaïne et 1,2 kg de méthamphétamine. La police évalue cette autre saisie à 850 000 $ sur le marché noir. Le ministre de la Sécurité publique de la Colombie-Britannique, Mike Morris, a indiqué que ce colis avait été saisi à l'aéroport et qu'il provenait de Chine, l'aéroport de Vancouver. Il espère plutôt que l'entente récemment conclue entre la GRC et le gouvernement chinois permettra de lutter efficacement contre l'importation illicite de fentanyl au Canada. La police de Victoria a rappelé aujourd'hui jeudi que récemment encore, 9 personnes sont mortes en 11 jours seulement sur l'île de Vancouver après avoir consommé du fentanyl. Sinon, toujours sur Victoria, autre fait divers, agression fatale pour un jeune homme de Québec, un jeune francophone poignardé à mort à Victoria samedi dernier. C'est rapporté par le Journal de Québec sous la plume du journaliste Jean-François Racine. Ça avait été d'abord rapporté par le Times Colonist ici localement. Un jeune homme de 20 ans de la ville de Québec est mort poignardé au cou lors d'une altercation survenue samedi au centre-ville de Victoria. Selon le Times Colonist, Raphaël Bussière a été atteint mortellement lors d'une agression survenue au coin des rues Douglas et View devant le restaurant McDonald's vers 00h30. C'était une personne avec un cœur immense, toujours de bonne humeur, a brièvement commenté Élise, une amie jointe par le journaliste il y a quelques jours. Un suspect a été arrêté pour meurtre peu de temps après le drame. Raphaël Bussière s'était rendu à Victoria en 2016 pour y travailler. Lors de l'altercation, les ambulanciers ont répondu à plusieurs appels d'urgence logés au 911. Blessée grièvement, la victime en hémorragie a été transportée à l'hôpital dans un état très critique. L'agresseur a fui, mais la police a pu utiliser la vidéo de surveillance du restaurant pour obtenir une description sommaire. Toujours selon le Times Colonist, la police a retracé le suspect un peu avant 2h du matin. Les policiers ont utilisé le pistolet à impulsion électrique pour le maîtriser. Un couteau a également été retrouvé. Le suspect serait toujours en garde à vue en attendant la suite de l'enquête. Les policiers de l'unité des crimes graves de l'île de Vancouver recherchent toujours des témoins et la couronne devrait déposer des accusations de meurtre sous peu. Sinon, politique culturelle à présent, un sous-financement en Colombie-Britannique est reproché à Téléfilm Canada. À quelques semaines de son 50e anniversaire, Téléfilm Canada se félicite de ses succès cinématographiques, mais des réalisateurs en Colombie-Britannique souhaitent que l'organisme fédéral subventionne davantage leurs œuvres. L'organisme au budget de 96 millions de dollars en 2015-2016 tenait mercredi son assemblée annuelle à Vancouver, au cours de laquelle il a souligné que le nombre de films canadiens primés ou sélectionnés était en hausse de 15% cette année. l'année. Sans oublier, a expliqué la directrice générale de Téléfilm Canada, Carole Brabant, qu'à partir de 2020, la moitié des subventions de l'organisme devraient aller vers des projets réalisés, scénarisés ou produits par des femmes. Donc, Téléfilm Canada qui vise la parité, à s'approcher très près de la parité dans le financement du cinéma. Cependant, plusieurs réalisateurs nous indiquent, cet article paru dans le portail de Radio-Canada, des réalisateurs britanno-colombiens, sont peu satisfaits de l'attention qu'accorde aux créateurs de la province Téléfilm Canada au cours des derniers exercices. Alors, c'est une critique qu'a contestée la directrice générale de l'organisme, Carole Brabant. Vous pouvez lire approfondir cette question sur le portail de Radio-Canada. Un sous-financement en Colombie-Britannique est reproché à Téléfilm Canada. Sinon, du côté du portail anglophone de la société Radio-Canada, CBC nous mentionne qu'une entente survenue avec Airbnb à Londres et à Amsterdam pourrait servir d'exemple aux villes de Toronto et Vancouver. On sait que Airbnb, en proposant ses services de location temporaire, a eu un gros impact sur le marché du logement et sur l'accès au logement des travailleurs et des petits revenus, des gens qui gagnent de petits revenus. Airbnb a changé l'écosystème locatif à Vancouver, c'est patent et démontré en tout cas. Et donc, CBC nous rapporte cette entente survenue entre Airbnb et les villes de Londres et Amsterdam qui vont maintenant limiter le nombre de nuits durant lesquelles peuvent être loués les services d'Airbnb, donc les logements Airbnb inscrits sur ce portail de location temporaire. C'est dans le portail CBC en date d'aujourd'hui. Deal to limit Airbnb rentals in European cities could lead way for Toronto and Vancouver. Sinon, du côté du média The Province, on nous signale en dernière heure que Vancouver et Victoria auraient été choisis pour accueillir les championnats du monde de hockey junior de l'année 2019. Alors, c'est une nouvelle qui sera sans doute célébrée plus en détail dans les médias demain. C'est une nouvelle toute chaude qui vient de tomber cet après-midi sur le fil de presse. Les championnats du monde junior se tiendront à Vancouver et Victoria en 2019. Autrement, pour refermer ce bloc provincial et local, je vous signale que le BC National Award for Non-Fiction a révélé sa courte liste des finalistes. Donc, c'est un prix littéraire qui est remis aux auteurs d'essais chaque année. Et cette courte liste comprend un britanno-colombien et deux montréalais, entre autres. Je vous cite le nom du britanno-colombien qui se retrouve dans cette courte liste, Robert Moore. Il vient de Half Moon Bay en Colombie-Britannique. Il est finaliste donc dans cette liste. Et le gagnant du BC National Award for Canadian Nonfiction sera connu le 26 janvier prochain. On fait une petite pause musicale. On va écouter Gilles Vigneault nous chanter une chanson de Noël. On se retrouve dans quelques minutes à l'antenne de CILS. À tout de suite.
Sur le bois et sur la rivière, on ne voit plus les ornières au chemin du roi. Fais ton somme, petit homme, un Jésus tout comme toi, est né chez les Iroquois. C'est un grand mystère. Depuis trois nuits que le loup hurle la nouvelle, les renards jouent de la vielle tout près de chez nous. Cloche, cloche, la capoche, la biche et le caribou sont venus voir à genoux.
désastre, les loups prendront peur. Plonge, plonge dans ton songe pour être un jour le sauveur. Il faudra, mon doux dormeur, renaître et renaître.
Vous écoutez CILS FM 107,9. L'émission Le Débrief se poursuit. L'info continue dans votre rendez-vous info quotidien. Je passe aux nouvelles du jour. François Hollande renonce à présenter sa candidature à la présidentielle 2017. La nouvelle est tombée aujourd'hui. Je m'entretiens un petit peu plus tard dans l'émission avec mon collègue Adrien Blanc qui anime ici à CILS l'émission Rendez-vous. On va approfondir ce sujet un petit peu plus tard. Restez à l'écoute. Je passe à une nouvelle qui nous arrive de Montréal dans ce bloc Nouvelles du jour. Gilles Vaillancourt en prison. Alors peut-être connaissez-vous ce nom. Gilles Vaillancourt, c'était le maire de la ville de Laval, troisième ville en importance du Québec, 1,5 million d'habitants. Le maire, donc l'ex-maire plutôt, se retrouvera en prison. En fait, le juge de la Cour supérieure du Québec, James Brunton, a ordonné l'incarcération immédiate de l'ex-maire Gilles Vaillancourt à la suite de l'enregistrement de son plaidoyer de culpabilité au palais de justice de Laval. Ça s'est passé cette semaine au Québec. L'ancien maire Vaillancourt a plaidé coupable de chef d'accusation de complot, d'abus de confiance et de fraude. Il évite ainsi l'accusation de gangstérisme, la plus grave du lot, en raison de la peine lourde qui l'accompagne. Alors, il néanmoins se retrouve en cellule aujourd'hui. Gilles Vaillancourt avait modifié son plaidoyer, lui qui s'était initialement déclaré non coupable des chefs d'accusation déposés contre lui dans la foulée de l'opération Honoré de l'unité permanente anticorruption du Québec en 2013. Cette nouvelle est rapportée dans tous les médias du Québec. Je vous ai lu quelques passages, quelques lignes de l'article paru sur le portail de Radio-Canada. Donc un juge qui s'était compromis dans la corruption et qui se retrouve maintenant en prison. Si vous voulez approfondir la nouvelle et commencer par cet article, c'est tout simplement intitulé « Au Québec, Gilles Vaillancourt en prison ». On fait une nouvelle petite pause musicale, quelques instants à peine. Au retour, on va parler de cette démission, en quelque sorte, ce renoncement du président Hollande. Je vais vous citer quelques lignes d'un édito paru sur Politis et ensuite, on va passer immédiatement à l'interview. À tout de suite. Alors, c'est la nouvelle du jour en politique internationale. Je vous cite quelques lignes d'un édito paru sur le portail politis.fr. Le terrible aveu d'échec de François Hollande. C'est signé par Denis Siffert. La voix blanche, la tête souvent inclinée vers ses notes, François Hollande a annoncé jeudi soir dans une brève allocution télévisée qu'il renonce à solliciter un deuxième mandat. Le président a soufflé le chaud et le froid tout au long de son intervention, égrenant d'abord un bilan qu'il a jugé, contre toute évidence, positif, y compris sur le chômage, et ne concédant finalement qu'une erreur, la déchéance de nationalité. Ce qui pouvait précéder l'annonce d'une candidature, ménageant ses effets jusqu'au bout, François Hollande a finalement affirmé être conscient des risques d'une démarche qui ne rassemblerait pas autour d'elle. Il s'est voulu lucide. Il l'a été en effet in extremis, car tout indique qu'il n'avait strictement aucune chance de l'emporter en 2017 et même de franchir le premier tour, écrit Denis Siffert dans cet édito paru sur politis.fr. Quoi qu'il ait prétendu, c'est un terrible bilan d'échec. Il était presque tragique d'entendre ainsi un président de la République jeter l'éponge en reconnaissant qu'il était devenu lui-même un obstacle à l'unité de la gauche. On attend à présent l'entrée en lice de son remplaçant. Manuel Valls, premier ministre qui n'a cessé de savonner la planche, a réussi son travail de sape. Il sera un autre candidat, plus autoritaire, l'homme de l'affrontement des deux gauches, l'homme du 49-3. Et par 49-3, ici, on entend une mesure parlementaire qui permet de faire passer des lois par décret. Emmanuel Valls, premier ministre, en était très adepte au cours des dernières années. Alors, cet édito se termine sur cette note, mais Manuel Valls aura lui aussi à assumer un bilan calamiteux et rien n'indique que cela sera beaucoup plus facile pour un homme qui incarne peut-être plus encore que François Hollande la dérive droitière du Parti socialiste. Donc, c'est un édito assez lapidaire de la part d'un média déçu de la gouvernance hollandiste, comme on l'appelle. Et bien d'autres papiers ont paru, vous le supposez, dans la presse française aujourd'hui. C'est vraiment la nouvelle du jour. Je vous encourage à explorer sur le web les différents avis qui ont été émis suite à cette annonce, suite à cette déclaration de François Hollande plus tôt aujourd'hui, jeudi 1er décembre. Donc on va à l'intermède musical. Au retour, je reçois mon collègue Adrien Blanc pour approfondir encore cette question. À tout de suite. De retour dans l'émission Le Débrief en fin de journée à l'antenne de CILS FM 107,9. Merci d'être à l'écoute. Il reste quelques minutes à l'émission. On va passer au créneau de l'interview. Je vous en ai parlé un petit peu plus tôt dans l'heure. On parle de cette décision qu'a annoncé le président François Hollande, le président français François Hollande, de ne pas solliciter un second mandat. J'ai avec moi mon collègue Adrien Blanc pour commenter cette nouvelle. Bonjour Adrien.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
Alors, le président qui s'était qualifié de président normal dans une célèbre intervention, dans un débat qu'il avait livré contre son adversaire Nicolas Sarkozy en 2012, le président normal est donc un président anormal quelque part, puisque c'est sans précédent, il annonce qu'il ne sollicitera pas de second mandat à ses compatriotes.
Oui, c'est la première fois parmi tous les présidents de la République, qu'un président n'est pas candidat à sa succession. Il y avait eu, je crois, le cas de Georges Pompidou, mais parce qu'il était décédé.
Voilà.
Mais sinon, à part cela, oui, chaque président, c'était un peu naturel dans l'image du président de la République. Puisqu'il est à la tête du pouvoir, forcément, il va défendre cette place-là. Et pas seulement pour lui, mais aussi pour son parti, pour la cohésion des institutions. Enfin, c'est un peu l'esprit qu'il y a toujours derrière cela.
Alors, certains s'en étonnent, d'autres avaient vu venir cette décision de longue date. Comment l'expliquer ?
J'avoue que moi-même, je ne m'y attendais pas, mais c'était la décision obligée. C'est-à-dire que s'il se portait candidat avec seulement 15% de satisfaction de la part des Français, ça voulait dire qu'il handicapait complètement la gauche, qu'il allait avoir beaucoup de mal à lui opposer d'autres candidats, d'autres compétiteurs à gauche, et donc ça ouvrait la voie à la droite et surtout à l'extrême droite. Et je pense que François Hollande n'avait pas envie d'assumer une victoire de l'extrême droite, soit au deuxième tour, voire même, soit au premier tour, voire même au deuxième tour. Et donc il était obligé en fait d'abandonner pour laisser la voie libre aux autres candidats de la gauche.
Qui ont de meilleures chances que lui, même oui. De l'avis du principal intéressé, qui s'est rendu à l'évidence.
Qui ne sont pas lui en fait, c'est un peu son problème. C'est que tout le monde s'est retrouvé contre lui, autant la gauche que la droite, et même ses plus proches amis d'hier l'ont peu à peu abandonné.
D'accord. Alors, tu parlais du premier et du second tour. Est-ce que c'est possible d'expliciter un petit peu à nos auditeurs locaux comment fonctionne le système électoral français?
Oui, en fait, en France, c'est une élection donc à la majorité, c'est-à-dire que il y a un premier tour aux élections où là, tout le monde peut se présenter à condition qu'ils aient un soutien suffisamment large des élus locaux. Donc en général, aux dernières élections, il y avait 12 candidats, je crois.
Oui. Il faut avoir 500 signatures de
maire. Voilà, 500 signatures de maire.
Et puis ça nous qualifie à ce moment-là pour
participer. Pour se présenter officiellement au premier tour. À l'issue du premier tour, les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix, le plus grand pourcentage, sont qualifiés pour le deuxième tour.
Oui.
Et là, au deuxième tour, donc ça rebat les cartes. En général, il y a des jeux d'alliance, de soutien. C'est-à-dire que les candidats malheureux soutiennent un des deux candidats qui est resté. Et au deuxième tour, donc, les Français revotent et choisissent leur président.
Voilà, donc il y a eu des deuxièmes tours assez marquants dans l'histoire récente, en 2002 par exemple.
En 2002, donc, c'était un deuxième tour exclusivement à droite. Le candidat de la gauche, Lionel Jospin, a été éliminé dès le premier tour. Et donc, c'était Jacques Chirac contre Marine Le Pen, contre Jean-Marie Le Pen, qui était le candidat du Front National. Donc, ça avait fait scandale.
Consternation chez les Français qui n'arrivaient pas à croire que Jospin, qui avait été Premier ministre, qui avait un bon bilan.
En fait, c'est un bilan mitigé, c'est un peu ça le problème.
Mitigé, oui.
Mais ce n'était pas que son bilan, c'était le bilan aussi de Jacques Chirac, c'est-à-dire qu'entre Jacques Chirac et Lionel Jospin, Jacques Chirac était déjà président,
oui. Il
y avait des conflits qui faisaient que ça n'allait pas très bien. Mais c'est Lionel Jospin qui en a payé le plus gros prix, en
D'accord.
fait. Et donc là, ça a secoué beaucoup la vie politique française parce qu'on s'est aperçu qu'elle pouvait ne pas fonctionner constamment sur les deux pieds gauche et droite. Ça pouvait être droite contre extrême droite, par exemple. Et donc Jacques Chirac a fait un deuxième mandat jusqu'en 2007 où là, il était un peu à bout de souffle. Et c'est là qu'est arrivé Nicolas Sarkozy, homme plus jeune, énergique, avec des promesses coup de poing.
Hyperactif.
Voilà, hyperactif, il faut le dire. Et au début, ça, c'est ce qui a plu aux Français, c'est que voilà, il promettait de grandes réformes, changer les choses, etc. Et puis finalement, bon, il a réussi à liguer pas mal contre lui aussi, du fait de cette personnalité, et du fait aussi qu'il a joué une stratégie de division, on peut dire, en essayant de rassembler son camp autour de lui, contre la gauche. Or, traditionnellement, les présidents français sont plutôt vus comme des rassembleurs, au-dessus des luttes gauche-droite.
Oui.
Lui, il avait cassé un peu cette tradition-là et je pense que c'est ce qui lui a coûté.
Alors, l'abandon de Hollande est peut-être aussi une réaction face à l'horizon qui se dessine pour 2017, un second tour à l'identique de 2002, droite et extrême droite. Il a voulu se libérer de ce scénario sans en subir l'odieux.
Oui. Il ne voulait pas être dans la même situation que Lionel Jospin en 2002, c'est-à-dire faire perdre la gauche, en fait.
Oui.
Et il a donc voulu quitter la politique avant sa défaite et pas faire comme Lionel Jospin qui, après sa défaite, avait annoncé qu'il quittait la politique. Donc là, au moins, il a cette décision qui a été saluée à gauche comme à droite. On peut citer, par exemple, son adversaire de droite, François Fillon, qui vient d'être choisi par le Parti des Républicains pour être leur candidat. Il a dit « Le président de la République admet avec lucidité que son échec patent lui interdit d'aller plus loin ». Lucidité, c'est un mot qui est beaucoup ressorti dans les réactions. Tout le monde a dit ben, c'était logique qu'il prenne cette décision-là. Quoi.
Oui. Mais qu'a-t-il donc fait au cours de ce mandat entre 2012 et maintenant pour devenir si impopulaire?
Alors en fait, c'est impressionnant parce qu'il a fait beaucoup de choses, mais ce qu'il a réussi n'a pas été vu, et ce qu'il a raté a fait beaucoup de bruit. Et c'est ça qui a ligué en fait autant la gauche et la droite contre lui.
Alors allons-y, parle-moi.
Alors il y a une très, très longue liste. Il avait fait beaucoup de promesses. Sa plus grande promesse était d'inverser la courbe du chômage. Il n'a pas réussi. Et c'était une promesse piège parce que tout seul, un président ne peut pas agir sur l'économie de cette façon. Mais comme c'était la priorité numéro un des Français, il a dit « moi, je vais inverser la courbe du chômage ».
Oui. Alors, l'agence Pôle emploi enregistre au jour d'aujourd'hui une augmentation de 25% des inscrits. Donc, l'agence Pôle emploi, c'est l'agence locale d'emploi, finalement, où se rendent les Français pour chercher du travail. Ouais. Alors, 25% d'augmentation des inscrits à cette agence.
Sur le mandat,
oui. Oui, ça ne milite pas en faveur de Hollande, en effet. Autrement, il avait dit qu'il s'attaquerait à la finance. Ça, c'est une promesse célèbre.
Mon ennemi, c'est la finance. C'est ce qu'il avait annoncé en 2012, quelques mois avant l'élection.
Oui.
Et c'est ce qui lui avait permis d'obtenir les soutiens de ceux qui sont le plus à gauche. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après son élection, il a fait tout le contraire. C'est-à-dire qu'il a en effet lancé des réformes pour limiter le pouvoir des banques, la spéculation, etc. Mais toutes ces réformes ont été tuées dans l'œuf parce que le gouvernement, pas seulement lui, avait peur que la place financière parisienne soit désavantagée par rapport aux autres places financières européennes et même mondiales. Et ça, ça a fait beaucoup de mal à l'image de la gauche qui est là pour défendre la justice sociale contre la finance rapace.
Il avait aussi promis une redistribution de la richesse par le biais d'un impôt sur les très grandes fortunes. Cet impôt est mort-né, je crois.
Oui, alors en fait, ça s'appelait la fameuse taxe 75% pour les plus hauts revenus, ceux qui sont à 1 million d'euros par an.
Oui.
Et donc ça a été populaire dès le début. Le problème, c'est que ça a monté contre lui le monde de l'entreprise, parce que beaucoup de patrons gagnent plus d'un million d'euros par an. Et donc ils ont très mal vu ça, et s'opposer aux entreprises, c'est aussi s'opposer au monde économique, ça lui a beaucoup coûté. Après, il y a eu des petits scandales avec les joueurs de foot. Est-ce que les joueurs de foot ne risquent pas de partir dans les autres clubs, etc.
Voilà.
Et finalement, cette taxe 75% a été censurée par le Conseil constitutionnel parce que contraire à l'égalité de tous devant l'impôt. Donc ça a été un coup dur aussi au niveau politique.
D'accord. Autrement, sinon, dans cette longue liste...
Bon, on pourrait en citer beaucoup. Au niveau européen, il n'a pas vraiment lutté contre l'austérité. On se souvient de la Grèce qui était... au bord de la faillite, il a timidement essayé de tenir tête à Angela Merkel, mais il n'a pas réussi, donc ça a cassé un peu son image de gauche. Et puis, toute cette politique qui n'était pas suffisamment contre la finance et contre le monde de l'entreprise, on va dire, a fait qu'il y a eu plusieurs départs de son gouvernement, de grandes personnalités de la gauche. On se souvient d'Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Aurélie Filippetti. Les écologistes sont partis aussi.
Oui.
Et à la place, qu'est-ce qu'il a nommé? Il a nommé Emmanuel Macron, issu du monde de la banque, qui n'est même pas membre du Parti Socialiste. Et puis qui finalement...
Non élu, d'ailleurs.
Qui n'a jamais été élu. Et puis qui finalement a fini par s'opposer à François Hollande et a quitté le gouvernement. Donc ça aussi, ça a fait très mal à son image. Et enfin, je voudrais insister sur quelque chose. C'est un événement médiatique qui n'a pas vraiment d'incidence sur la politique, mais qui a beaucoup marqué la mentalité des Français. C'est ce qu'on appelle l'affaire Leonarda. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
Une jeune Rome, je crois.
Voilà, une jeune Rome, en fait, qui a été arrêtée en octobre 2013 pendant une sortie scolaire. Donc d'après les médias locaux, etc., la police a demandé aux enseignants d'arrêter le bus. Ils ont sorti Leonarda de ce bus pour l'expulser. Ça a fait scandale pour l'expulser du pays. Mm-hmm. Parce qu'elle était en situation irrégulière, il faut le reconnaître. Mais ça a fait scandale parmi les milieux de défense des droits de l'homme et de l'éducation en France, à tel point que François Hollande s'est vu obligé d'intervenir à la télévision pour dire « Leonarda peut rentrer pour continuer ses études en France, mais sans sa famille ».
Oui.
Et là, nouveau scandale.
Genre de jugement un peu empoisonné, quelque part.
Et puis, provenant d'un président de la République qui n'est pas la justice à lui tout seul, il y a un fonctionnement qui existe.
Oui.
Et lui a essayé de calmer un peu la polémique, et en fait, il n'a fait que l'alimenter, parce qu'automatiquement, les gens ont dit, mais il essaye de séparer cette pauvre fille de sa famille, surtout qu'elle a répondu au président par vidéo. Enfin, c'était assez incroyable d'imaginer le président, et puis cette jeune fille... étrangère, en dialogue par le biais de vidéos interposées. Et ça a beaucoup cassé son image d'homme d'État, toujours au-dessus de la mêlée, telle qu'elle est pour un président de la Ve République française.
Et par la suite, en réponse aux attentats, aux premiers attentats de la série qu'on a connus, il a proposé, il a voulu la déchéance de nationalité.
Oui, alors là, j'avoue que je n'ai pas tout compris non plus. Ça a été des grands débats, parce qu'en fait, la déchéance de nationalité, ça avait été un projet porté par Nicolas Sarkozy en 2010. La gauche s'était farouchement opposée à ça, au nom de la défense des droits humains. Et voilà que maintenant que la gauche est au pouvoir, c'est le président lui-même qui propose cette déchéance de la nationalité. Et lui-même, là ce soir en France, il a reconnu que c'était une erreur d'avoir proposé cette déchéance de nationalité qui posait des questions juridiques et éthiques énormes.
En effet. Donc c'est la seule erreur qu'il a reconnue au cours de cette courte allocution prononcée en direct, je crois, aux compatriotes français. Donc est-ce que ça conclut ce tour d'horizon de la présidence de François Hollande ?
Alors maintenant il laisse la place à une foule de candidats.
Oui,
donc,
voilà.
C'est un peu la grande question.
Il y a foule au portillon.
Voilà. Alors il va y avoir une élection primaire, on va dire. Enfin, il va y avoir les primaires à gauche. En janvier, ça sera précisément les 22 et 29 janvier. Donc il y a plusieurs candidats de poids, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon. Le Premier ministre actuel, Manuel Valls, n'a pas dit qu'il se présenterait, mais à mon avis, il va se présenter. Et puis d'autres, des personnalités écologistes ou des personnalités aussi moins connues, mais qui veulent renouveler un peu la politique française, qui veulent s'appuyer plus sur la société civile. Donc ça va être intéressant de voir comment ils évoluent.
Et il y a un électron libre qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon.
Jean-Luc Mélenchon, voilà, qui
est au front de gauche,
c'est
crois,
ça, donc,
de gauche.
En fait, toujours à la gauche du Parti Socialiste, il y a toujours eu plusieurs petits partis qui essayaient, avant l'élection présidentielle, de s'entendre pour présenter un candidat commun. Ça a toujours plus ou moins bien marché. Et là, cette fois, Jean-Luc Mélenchon, profitant d'une certaine popularité, a décidé de se présenter par lui-même, sans se concerter avec le Parti communiste, par exemple. Mais ça a l'air de plutôt bien marcher, puisque les sympathisants du Parti communiste, même les membres du Parti communiste, semblent vouloir le soutenir.
Mais pas les cadres.
Voilà, donc
à
ça
suivre.
Fait un problème.
Et Macron, pour revenir à son cas...
Alors lui aussi, c'est un électron libre,
oui.
Parce qu'il n'est pas membre du Parti socialiste, il a son propre mouvement, et il ne sera pas dans la primaire, de même que Mélenchon. Donc il va se présenter en tant que candidat à la présidentielle, mais pas soutenu par le Parti Socialiste ou par un grand parti, en fait. Il s'appuie un peu sur ça, sur l'homme nouveau qui va bousculer les institutions, et plutôt centriste, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment de gauche, pas vraiment de droite. Donc à suivre.
Voilà. D'accord. Et Hollande va terminer sa présidence dans la tiédeur, j'allais dire, dans l'effacement.
Oui. Il va un peu comme Barack Obama, hein, si on peut faire la comparaison. Il va expédier les affaires courantes et puis il va assurer l'organisation de l'élection présidentielle. Mais pour ce qui est de la suite de sa vie politique, on ne sait pas encore s'il va essayer de rebondir. On sait que Lionel Jospin en 2002, après sa défaite, avait complètement abandonné la vie politique. Oui. Il a essayé parfois de ressortir un petit peu, mais ça n'a jamais vraiment bien marché.
D'accord, donc on verra ce que François Hollande décide de faire. On pourra revenir sur le sujet en janvier, au moment de la primaire de gauche. Grand merci Adrien pour cet éclairage.
Ben merci.
Voilà, c'était Adrien Blanc au micro du débrief. Adrien anime toutes les semaines l'émission Rendez-vous dans la grille de CILS FM 107,9. C'est déjà tout pour le débrief pour cette édition du 1er décembre. Merci d'avoir passé cette heure d'info avec nous. C'est Alexis Gagnon au micro. Avant de se laisser, je mentionne que se tient ce soir le 5 à 7 mensuel des francophones de Victoria. C'est organisé par la Société francophone de Victoria. Ça se tient au Yates Street Tap House. L'adresse 759 Yates Street, c'est au cœur de Victoria. Ça débute dans quelques minutes à 5h et ça se poursuit jusqu'à 7h PM ce soir. Excellente soirée à tous.
ici Sam Reed. Vous écoutez CILSFM 107.9 à Victoria.